Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce dimanche 10 avril 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Déclaration de 250 députés iraniens sur les pourparlers nucléaires. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous.
Les pourparlers de Vienne doivent garantir les avantages économiques de l'Iran, dit le président du Parlement iranien. En France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Et en RDC, les rebelles du M23 abandonnent les localités conquises. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré dimanche 10 avril que les négociations nucléaires à Vienne devaient conduire à des avantages économiques garantis pour l'Iran, selon un communiqué publié sur le site Internet du Parlement. Les progrès nucléaires de l'Iran représentent un soutien solide pour les avantages économiques du peuple iranien et les négociations nucléaires devraient conduire à des avantages économiques garantis durables et tangibles pour le peuple iranien, indique le communiqué. Citant M. Ghalibaf lors de la séance publique du Parlement. M. Ghalibaf a fait ses remarques pour commémorer la Journée nationale de la technologie nucléaire qui tombait samedi 9 avril. Selon lui, la localisation de l'industrie nucléaire a amélioré le pouvoir de négociation des diplomates iraniens durant les pourparlers de Vienne. Nous espérons maintenant que l'atout précieux que constituent les connaissances et la technologie nucléaire avancée, combinée à une bonne négociation, mèneront à un bon accord pour les avantages économiques du peuple iranien, a-t-il noté. Un jour plus tôt, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les progrès réalisés par le pays dans la science et la technologie nucléaire pacifique étaient irréversibles. Depuis avril 2021, 8 cycles de négociations ont eu lieu à Vienne entre l'Iran et les autres parties du plan d'action global conjoint, à savoir la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, pour relancer l'accord. En mai 2018, le gouvernement américain, sous l'ancien président Donald Trump, a retiré Washington de ce plan et a réimposé unilatéralement des sanctions contre l'Iran. En réponse, Téhéran a progressivement abandonné une partie de ses engagements dans le cadre de l'accord à partir de mai 2019. L'Iran exige que les États-Unis garantissent de ne pas abandonner à nouveau l'accord et de lever les sanctions de manière vérifiable. Les parlementaires iraniens ont exigé dimanche que les États-Unis fournissent des garanties légales interdisant aux futurs gouvernements américains de renoncer à l'éventuel accord visant à sauver le plan d'action global conjoint. Les États-Unis doivent fournir à l'Iran les garanties légales nécessaires pour prouver qu'ils ne risquent pas de se retirer à nouveau l'accord nucléaire. Ces garanties doivent être approuvées sous une forme légalement contraignante par les plus hautes institutions décisionnelles des États-Unis, dont le Congrès, afin qu'il n'y ait à l'avenir aucun obstacle à la mise en œuvre de l'accord, indique un communiqué signé par 250 législateurs iraniens. Les États-Unis doivent également veiller à ce que les sanctions qui seront levées ne soient jamais remises en vigueur. L'Iran doit avoir le droit d'exporter son pétrole vers n'importe quel pays et dans n'importe quelle quantité et doit pouvoir percevoir les revenus liés à ses exportations de pétrole par le biais du système bancaire international, ajoute le communiqué des parlementaires iraniens. L'ambassadeur de Syrie à Téhéran, Shafir Dayoub, a évoqué avec une délégation iranienne composée des représentants de différents secteurs commercial, industriel et d'artisanat, les moyens de renforcer et de développer la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays. Dayoub a souligné l'importance d'établir des entreprises conjointes entre les deux côtés et de consolider le rôle du secteur privé de façon qui sert les intérêts des deux pays amis dans les domaines économiques et commerciaux, insistant sur l'importance de déployer les efforts pour renforcer les relations économiques et commerciales pour qu'elles atteignent le niveau des relations politiques et stratégiques bilatérales et d'organiser des expositions réciproques d'une manière qui contribue à faire connaissance des produits fabriqués dans chacun des deux pays. L'ambassadeur Dayoub a souligné la participation d'entreprises iraniennes et d'hommes d'affaires iraniens à la troisième conférence de la reconstruction de la Syrie intitulée « Perspectives et visions de l'investissement » qui se tiendra à Damas au mois de mai prochain. De son côté, la délégation iranienne a mis l'accent sur l'importance de la coopération avec la Syrie dans les différents domaines économiques, médicaux, industriels, technologiques et d'informatique, appelant à traiter toutes les questions techniques d'une manière qui contribue au renforcement des relations entre les deux pays. Pour le deuxième jour consécutif, les FTS ont empêché l'accès des denrées, de la farine et de carburant vers le centre-ville de Hasaka, ce qui a causé une pénurie et une hausse des prix des denrées, constituant ainsi une pression supplémentaire sur les citoyens en termes d'assurer les besoins de la vie quotidienne. Les FTS ont également fermé les rues environnantes et établi des points de contrôle mobiles. Ce n'est pas la première fois que la milice séparatiste assiège le centre-ville de Hasaka. L'an dernier, elle l'a assiégé pour quelques mois et privé les habitants d'apporter de la nourriture, de la farine et des médicaments. Ce siège ne s'est terminé que par un soulèvement populaire contre les pratiques de la milice qui a fait des martyrs civils et des blessés. Les habitants de la ville de Hasaka ont exprimé aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, leur colère contre les pratiques criminelles des FTS qui cherchent toujours à les priver des produits alimentaires de première nécessité. De même, les FTS, soutenus par l'occupant américain, ont pris d'assaut l'une des sections du camp Al-Hol pour les réfugiés, qu'elle contrôle à l'est de la ville de Hasaka, et y enlevé un certain nombre de ses résidents, et ce au milieu de l'augmentation de l'insécurité qui règne à l'intérieur du camp. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana que des groupes armés des FTS avaient encerclé la sixième section du camp qu'elles contrôlent en coopération avec les forces d'occupation américaines et enlevé un certain nombre de ses résidents et les ont emmenés à une destination inconnue. Les sources ont souligné que le camp connaît un état de tension et d'insécurité, notamment des crimes d'assassinat commis dans ces sections où un corps d'un jeune homme tué a été trouvé dans la quatrième section ces dernières heures. En France, le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, candidates du Rassemblement national RN, sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Selon les résultats provisoires annoncés dimanche à 20h heure locale par les instituts de sondage à l'issue du scrutin du premier tour, Emmanuel Macron, candidat du mouvement La République en marche, est arrivé en tête avec 28,3% des voix selon IFOP. Il est suivi de Marine Le Pen, crédité de 23,6% des voix selon IFOP. Les deux candidats se retrouvent pour la deuxième fois au second tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, est arrivé en troisième position avec 20,5% des voix. Aucun des 9 candidats restants n'a franchi la barre des 10%. Éric Zemmour, extrême droite, occupe la quatrième place avec 7,1% des voix. Le taux d'abstention pour ce premier tour est estimé autour de 26% par les instituts de sondage. Ce taux s'est élevé à 22,2% en 2017. Les deux candidats finalistes se sont exprimés dès l'annonce des résultats provisoires. M. Macron a appelé à fonder, au-delà des différences, un grand mouvement politique d'unité et d'action. Marine Le Pen a pour sa part appelé tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron à rejoindre son parti RN. Le nom du futur président de la République française sera connu le dimanche 24 avril à l'issue du scrutin du second tour de l'élection présidentielle. Les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs localités du territoire de route Chourou dans l'est de la République démocratique du Congo ont annoncé dimanche 10 avril le retrait de celle-ci tout en attendant du gouvernement congolais la tenue d'un dialogue. Le M23 exprime son intention de remettre au Comité international de la Croix-Rouge tous les éléments de l'armée nationale capturés sur la ligne de front en vue d'une prise en charge appropriée, ajoute-t-il, affirmant qu'il n'a jamais eu l'intention de faire la conquête des espaces pour les administrer. Plusieurs villages de l'est de la République démocratique du Congo sont passés sous contrôle des rebelles du mouvement du 23 mars M23 après des affrontements avec l'armée congolaise dans la région de Rutshuru. La ligne de front se situait samedi 9 avril à une dizaine de kilomètres du centre urbain de Rutshuru. Des combats étaient également signalés autour du barrage hydroélectrique de Matebe dans le parc de Virunga. Défaite en 2013, le M23, également appelé Armée révolutionnaire du Congo, dont les combattants s'étaient réfugiés en Ouganda et au Rwanda, a repris les activités militaires l'an dernier, reprochant à Kinshasa le non-respect de ses engagements de paix conclus en 2013, notamment la réintégration dans la vie civile pour certains combattants, l'intégration dans l'armée pour d'autres et l'amnistie pour les combattants. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Ce qui attend la liaison maritime Israël-Émirats. Les Émirats arabes unis et Israël ont récemment signé un protocole d'accord pour renforcer la coopération en matière de transport, en particulier dans le domaine du commerce maritime, dit-il, dans le cadre du partenariat stratégique qui a émergé de la signature des accords d'Abraham. Les deux parties prétendent que le renforcement des relations bilatérales contribuerait à établir la stabilité et la paix au Moyen-Orient, à stimuler la croissance économique, à renforcer l'innovation technologique et à établir des relations plus étroites entre les peuples de la région. Dès la signature des accords, d'ailleurs, la compagnie maritime israélienne ZIM s'est empressée d'initier des dessertes du port de DP World, Jebel Ali. India East Med Express de ZIM offrait des services depuis Israël et la Méditerranée orientale vers les Émirats, tandis que le service ZIM Israël-Inde commençait à accepter des marchandises de Jebel Ali à Haïfa. Et à en croire les Émirats, tous ces agissements dans le Golfe Persique iraient dans le sens des intérêts des peuples de la région. Ce genre de racontard est loin d'associer l'Iran et les peuples de la région, qui voient là surtout des tentatives d'infiltration israélienne à des fins de déstabilisation. Lors d'un contact téléphonique, le samedi 9 avril, le ministre iranien des Affaires étrangères a été bien clair. L'Iran ne tolérait pas Israël à sa porte. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue émirati, le cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, ont discuté au téléphone de questions bilatérales, régionales et internationales, notamment la situation en Syrie, les développements dans les territoires occupés de la Palestine et les pourparlers de Vienne. Lors d'une conversation téléphonique du samedi 9 avril avec son homologue émirati, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a dénoncé la présence du régime sioniste dans la région, avant de souligner que la présence d'Israël représente une menace pour tous les pays de la région. En allusion à la présence de l'entité sioniste dans la région, le chef de la diplomatie iranienne s'est exprimé en ces termes. Les sionistes ont été et sont à l'origine de l'insécurité dans la région. Il a décrit la présence du régime sioniste dans la région comme une menace pour tous les pays de la région. le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré. Des efforts doivent être conjugués pour empêcher les éléments qui créent la crise de prendre pied dans la région. Pour sa part, Al-Nahyan s'est contenté de promettre qu'Abu Dhabi n'autoriserait aucune partie à utiliser le sol émirati pour des actes de sabotage ou de provocation contre les États voisins. Il y a évidemment l'option dite « Mercer Street » ou l'attaque au drone contre tout bâtiment suspect israélien qui s'aventurait dans les eaux de la région. Mais le progrès iranien étant fulgurant en la matière, d'autres choix s'offrent de plus en plus. Lesquels ? Fin 2021, le CGRI, Corps des gardiens de la révolution islamique, a dévoilé une classe de submersibles subsurface en quoi certains analystes ont vu une forme de torpille. Était-ce une torpille ? On sait que l'Iran est le concepteur de divers modèles de torpilles, dont quelques-uns font partie des plus mortels au monde, mais l'engin récemment dévoilé ne semble pas en être une. C'est un drone sous-marin, sans pilote, auquel le CGRI a donné le nom de Shahpat. Le Shahpat iranien est de courte portée, adapté parfaitement aux eaux peu profondes du golfe Persique. Quelle est la mission de ce petit drone sans pilote sous-marin ? C'est une plateforme, évidemment, pour pulvériser des cibles sur surface et de surface, ce qui devrait bien inquiéter une entité en quête de nicher quelque part à Bahreïn ou aux Émirats arabes unis, près des côtes iraniennes. Mais Israël, totalement dépourvu d'une marine qui vaille ses alliés, ne demanderait pas des missions d'attaque. Si l'entité a osé s'infiltrer dans le golfe Persique, c'est à des fins d'espionnage anti-Iran, ce qu'elle ne cache même pas. Or, le Shahpad iranien est aussi spécialisé dans des missions cartographiques et fouilles sous-marines ou encore transport de dispositifs sonar. Mais il y a plus. Ces drones sous-marins semblent avoir les mêmes capacités que les drones aéronavals iraniens, à savoir synchroniser leur action entre eux. Le Shahpad iranien s'essaye soit à l'aide des drones, soit par le biais des câbles sous-marines, soit via l'intelligence artificielle. Mais une chose est sûre, ni navire de guerre, ni sous-marin ennemi ne pourrait tenir tête à un essaim de Shahpad.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Alors que l'Organisation des Nations Unies a négocié un cessez-le-feu fragile de 2 mois au Yémen et que la guerre se poursuit toujours dans ce pays, une annonce a été faite ces derniers jours concernant l'ancien président fugitif et démissionnaire yéménite Abderrabbo Mansouradi. En effet, dans un décret, le président fugitif a annoncé la formation d'un conseil de direction présidentiel présidé par Rachad Al-Halimi et constitué des membres de cet autre parti et fraction politique. L'Arabie saoudite a exprimé son plein soutien à la formation de ce conseil et à toute initiative qui pourrait, selon le régime saoudien, contribuer à une paix définitive au Yémen. Le régime de Riyad est allé encore plus loin en demandant à ce conseil d'engager des négociations avec Ansar Allah sous les auspices des Nations Unies pour parvenir à une paix globale. La réaction d'Ansar Allah n'a pas tardé à venir. Le porte-parole du mouvement yéménite a dénoncé en effet la formation de ce conseil et estimé que l'objectif d'une telle démarche serait de réorganiser en effet les mercenaires du camp Riyad, Washington, Émirat. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons à analyser les principaux enjeux et objectifs de ce projet, de cette récente évolution au Yémen et au moment où justement le mouvement Ansar Allah continue de gagner du terrain sur le terrain. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Après l'entrée en vigueur de la trêve de 2 mois entre Riyad et Ansar Allah, trêve soldée par l'arrivée des 2 pétroliers à Hudaïda et la reprise des vols en provenance de l'Égypte, il est clair que le camp d'en face a fait là une méga capitulation. En effet, la spectaculaire attaque balistique du 25 mars, qui a littéralement mis hors de portée le plus important port de stockage et de déchargement du pétrole saoudien en direction de l'Occident, à savoir Jeddah, une mise hors service qui a coûté à Ansar Allah un seul missile de croisière Rhodes 2, mais à Riyad 1 milliard de dollars de dégâts, puisque Aramco, Jeddah n'est plus, semble avoir fait son effet et fait comprendre de quel bois sont faites les menaces d'Ansar Allah et à quel point risque d'être périlleux le fait de les prendre à la légère. Et pourtant, tout porte à croire que cette trêve qui vise plutôt qu'à laisser un répit aux Yéménites à entraîner les cours du pétrole dans une dynamique baissière n'a pas l'air d'être trop solide. Riyad, qui, suivant les termes de l'accord, doit permettre l'accostage de 18 pétroliers d'ici la fin de la trêve à Hudaïda, n'ayant libéré jusqu'ici que 2. Mais l'Arabie saoudite, qui se sait condamnée au Yémen, pourquoi s'entêterait-elle à se rendre à l'évidence? Le journal américain The New York Times revient sur cette question et affirme que l'Arabie saoudite est désormais dans une impasse au Yémen, impasse qu'elle est incapable de surmonter à moins de faire confiance, entièrement confiance, à ses alliés. En janvier, l'armée américaine est intervenue pour aider les Émirats à déjouer une attaque au missile d'Ansar Allah. Néanmoins, la guerre se trouve une impasse. Les alliés yéménites de la coalition saoudienne sont un groupe divisé, regroupant des parties de l'ancienne armée qui sont en guerre les unes contre les autres. Le président démissionnaire yéménite, Mansour Hadi, qui vient d'appeler Ansar Allah ses frères et dont le soutien a servi de prétexte à l'Arabie saoudite pour lancer la guerre au Yémen, est l'homme le plus détesté auprès des yéménites. À tout ceci s'ajoute le fait que le président yéménite, Abdrabo Mansour Hadi, a annoncé ce jeudi la délégation de ses pouvoirs à un nouveau conseil présidentiel pour diriger le pays. Ce nouveau conseil sera composé de 8 membres et sera dirigé par Rachad Al-Halimi, un ancien ministre de l'Intérieur et conseiller du président. Les Yéménites n'accepteront probablement pas la paix sans arracher des concessions à la coalition et au gouvernement démissionnaire. Cette longue guerre d'usure a causé au Yémen la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies, mais aussi la pire perte qui soit à Riyad, mais ce dernier ne pourrait céder facilement.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develle, juriste international et analyste politique. Et depuis Alsace avec Maître André Chamy, lui aussi juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation et bonjour à toute l'équipe, à votre invité également.
Alors, comme vous savez, le président fugitif et démissionnaire yéménite a fait état de la formation d'un conseil de direction présidentiel. Et fait état, en effet, du transfert de ses pouvoirs à ce conseil. Pourquoi, en effet, l'Arabie saoudite a décidé de mettre en quelque sorte de côté le président fugitif? Et puis, qu'est-ce que la formation de ce conseil pourrait changer sur le plan politique et, en effet, sur le terrain, Maître Chamy?
Vous savez, les changements dans le sens général du terme, dans la position ou dans les positions de l'Arabie saoudite, ont été dessinés sur le terrain. C'est-à-dire, si Ansar Allah et si le peuple yéménite n'ont pas fait preuve de génie et d'une résistance extraordinaire, nous ne serions pas là, puisque les Saoudiens croyaient qu'ils allaient pouvoir pratiquement occuper le Yémen et mettre ce pays à genoux en très peu de temps. Et au bout de plus de 8 ans, jusqu'à maintenant, ce qui apparaît sur le terrain, c'est que ce sont les Yéménites qui ont le mot le plus haut, et ce sont eux qui gagnent du terrain, et ce sont eux qui arrivent, au contraire, à répondre coup pour coup aux Saoudiens et à leurs alliés, c'est-à-dire les mercenaires qu'ils ont pu réunir autour d'eux, avec d'autres pays du Golfe qui participent à cette agression gravissime, notamment les Émirats Arabes Unis. Et évidemment, cette affaire, si j'ose dire, est montée crescendo, c'est-à-dire au début, les Yéménites ont été pris de court et ils ont été agressés gratuitement. Et à partir du moment où ils ont pu se réorganiser et se préparer à ce qui se passe, évidemment, les choses se sont passées différemment, puisqu'ils ont pu non seulement récupérer les territoire perdu, mais ils ont pu même chasser les Saoudiens d'un certain nombre d'endroits qu'ils ont occupés, et parfois c'était des endroits très difficiles d'accès sur le plan militaire. Et quand on voit de quelle manière ils sont parvenus, ça pousse vraiment à crier victoire, parce que cette victoire est due presque à un miracle. Parfois on se demande si c'est pas quelque chose de divin qui s'est produit à cet endroit-là, parce que ce sont des personnes qui avaient peu d'armes, peu d'équipements, presque pas habillées comme des militaires. Quand on voyait qu'ils avaient à peine des savates aux pieds, et ils arrivaient à se battre contre des militaires hyper armés, hyper équipés, hyper protégés, cela donne forge, on va dire, l'admiration. Mais derrière ça, les décisions politiques devaient arriver. Puisque, encore une fois, sur le terrain, vous marquez des points, mais vous les capitalisez en termes de décisions politiques. Et on a vu les reculades au fur et à mesure du côté des Saoudiens, puisque au début, ils ont voulu faire des négociations, mais par l'entremise de telle ou telle partie. Ensuite, ils ont proposé d'autres médiations. Ensuite, ils ont proposé d'autres moyens à mettre en place. La dernière fois, c'était une décision unilatérale pour cesser le feu, mais en même temps, ils ont fait participer les Nations Unies. Et puis finalement, ils ne respectent toujours pas, parce que le terrain ne leur appartient pas. Et évidemment, ils ne sont pas capables aujourd'hui de prendre une position et de la garder. Et à partir de là, ben évidemment, les Yéménites continuent la guerre comme si cette décision n'avait pas existé, parce que cette décision ne les concerne pas, parce qu'eux, ils veulent tout simplement un départ pur et simple des Saoudiens et un arrêt de tous les combats et un arrêt de toutes les pressions et de toutes les agressions concernant le territoire et la population. Et à partir de là, évidemment, chaque pays retrouverait sa souveraineté et pourrait négocier en tant que vis-à-vis par rapport à l'autre pays. À partir du moment où vous avez une partie de votre territoire qui est occupée, à partir du moment où vous êtes agressé, à partir du moment où vous avez un pays qui continue de vous menacer, et évidemment, vous ne pouvez pas accepter ce type de deal avec. Et les décisions politiques maintenant qui tombent du côté d'un fantôme de président, parce qu'il n'a plus rien d'un président, tentent à donner en quelque sorte, à redorer en quelque sorte l'image de ce pouvoir déchu, pour dire, ben voilà, on existe et on a une forme, mais on a choisi une sorte de collectivité pour gouverner, puisque vous n'êtes pas d'accord avec le fameux Hadi, ben on trouve d'autres personnes comme interlocuteurs. La question n'est pas une question d'interlocuteur, c'est une question de collaboration ou pas avec l'ennemi. L'Arabie Saoudite s'est mise dans la position d'ennemi pour le peuple yéménite. Et évidemment, tous ceux qui ont collaboré avec ce royaume doivent évidemment en payer le prix. Le premier prix, malheureusement, qu'ils vont payer pour eux, ça sera par l'Arabie Saoudite, parce que les Saoudiens vont les lâcher les uns après les autres. Le premier qui a été lâché, c'est Hadi, première et deuxième fois. Il y a eu également Ali Abdallah Saleh qui a joué un double jeu, mais d'autres vont en payer le prix par les Saoudiens, par les Américains et par les Israéliens. Puisque toute l'aide dont les Saoudiens ont bénéficié n'a rien donné, le peuple yéménite et la résistance yéménite a gagné du terrain, a eu le mot le plus fort sur le terrain. Évidemment, c'est cette victoire qui doit être saluée, et c'est cette victoire qui va récupérer, si j'ose dire, le prix en matière politique. Et évidemment, les Saoudiens devraient tout simplement lâcher prise, partir et ficher la paix aux Yéménites et au peuple yéménite afin que ces derniers puissent se gouverner par eux-mêmes, puissent instaurer leur propre gouvernement démocratiquement élu, en tout cas selon la volonté, selon les idées des Yéménites, mais pas, certainement pas selon les idées des Saoudiens, et bien entendu en toute indépendance et avec les circonstances qui s'imposent pour imposer cette souveraineté. Les Saoudiens, une fois qu'ils seront partis, les Yéménites feront leur affaire de leur régime, de leur façon de gouverner leur pays, et bien entendu de leur représentation nationale à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan ethnique, tout ce que vous voulez. Mais la question qui se pose, c'est d'abord la libération du territoire yéménite de tout occupant, quel qu'il soit, et plus particulièrement des Saoudiens.
Merci infiniment, Maître Chami, pour ces éclairages. Merci. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous et bonjour à Maître Chami.
Maître Develet, Maître Chami a évoqué à juste titre, en effet, les changements sur le terrain et des changements politiques, en effet, qui ont été décidés du côté de l'Arabie Saoudite et de ses alliés en fonction, justement, de ces changements, en d'autres termes, de la défaite, en effet, du régime de Riyad et de ses alliés face à la résistance yéménite. D'où, justement, l'annonce par le président fugitif de la formation de ce conseil de direction présidentiel. Ansar Allah a estimé que l'objectif de la formation de ce conseil consisterait à réorganiser en quelque sorte les mercenaires, en effet, du camp de l'ennemi. Est-ce que pour vous, cette annonce, en effet, provient en quelque sorte, signifie en quelque sorte une capitulation de la coalition saoudienne et pour, en effet, comme disait Maître Chami, tenter de redorer en quelque sorte son image dans cette guerre qui continue de s'enliser.
Ben écoutez, on peut le penser si on s'en tient à l'historique des promesses faites par Riyad au travers de leurs représentants sur le terrain, puisque bon, on sait que par exemple en ce qui concernait l'accès au port d'Hudaïda, il y avait eu des accords qui permettaient au moins à de l'aide humanitaire d'arriver par le biais de ce port, et l'Arabie Saoudite s'est empressée de revenir sur leurs obligations. Donc il faut rester toujours extrêmement prudent eu égard à la parole de Riyad. Maintenant, on peut penser effectivement que suite aux événements récents du 25 mars, qui n'ont pas manqué d'être relayés dans les médias du monde entier, la position, politiquement parlant, du prince héritier est extrêmement précaire. Politiquement, il est le propriétaire de ce désastre qui maintenant, Maître Chami le soulignait, rentre dans sa 8e année. Et ça devient une situation pour lui maintenant où s'il prétend un jour prendre les destinées du royaume en main, il se doit absolument, comme condition préalable, de mettre fin à cet aventurisme militaire. La question qui se pose pour lui, c'est de quelle manière et comment peut-il sauver la face, puisque c'est avant tout une question de sauver la face, et présenter les choses de telle sorte qu'il est plus ou moins propriétaire ou l'auteur d'un processus qui permettrait de préserver ce qui peut être préservé politiquement pour lui. Ce faisant, il est plus ou moins réduit à se tourner encore une fois vers les mêmes personnes, avec, on peut l'imaginer, les mêmes résultats. Puisque de toute façon, le problème principal dans tout processus de négociation concernant la crise au Yémen, c'est le format juridique adopté par les Nations Unies fin 2015 au travers de cette résolution 2216. La situation sur le terrain ayant évolué de telle sorte que les recommandations de cette résolution n'ont plus raison d'être, à commencer par le rôle et la légitimité politique de la résistance yéménite, et partant de là, de la résistance yéménite au travers des comités populaires, de l'armée yéménite et d'Ansarullah. Si leur légitimité politique n'est pas prise en compte ab initio et partant de là, leurs revendications et leurs demandes préalables avant toute négociation n'est pas le support nécessaire à un processus de discussion qui pourrait ensuite mener peut-être à une solution. Les manœuvres actuelles semblent quelque part presque caduques. Et c'est un petit peu désolant de voir que les Nations Unies, puisque c'est eux qui sont plus ou moins les sponsors de cette trêve, qui, on ne va pas bien sûr jeter l'opprobre sur cette initiative, mais il faut prendre le taureau par les cornes et commencer par le début. En alimentant l'idée d'une espèce de comité fantoche qui n'est qu'une extension juridiquement parlant, d'une situation où le président en exil, qui avait lui-même tendu sa résignation en 2014-2015, qui s'est empressé de fuir le pays alors qu'il aurait dû en fait tenir la barre et défendre les intérêts du peuple yéménite, qui plus est qui a pris refuge dans la capitale du pays qui mène la coalition d'agression, rend toute décision de sa part en termes de délégation de pouvoir complètement, j'allais dire, presque grotesque. Donc ça explique pourquoi la résistance yéménite prend ses distances avec cet arrangement. Et même si elle ne rejette pas fondamentalement l'idée de pouvoir discuter avec d'autres factions au sein du pays, on peut d'ailleurs se demander lesquelles, elle a demandé et exigé avant tout avant que ces discussions puissent prendre place, effectivement, les forces d'occupation quittent le pays et que le siège soit levé. Or, le siège ne peut pas être levé dans la mesure où les Nations Unies ont entériné au travers de cette résolution, justement, le blocus économique du pays.
Merci pour ces précisions. Maître De Velay, alors concernant le positionnement de la France et des États-Unis qui ont salué en effet la formation de ce conseil, justement ces deux pays qui ont fourni des armes meurtrières à l'Arabie saoudite, des armes qui ont servi en effet au massacre des civils, des femmes et des enfants. Alors comment interprétez-vous, comment évaluez-vous en effet ce positionnement des pays occidentaux, y compris la France et surtout les États-Unis, est-ce que là on assiste en effet à un nouveau projet en effet du camp occidental au Yémen?
Écoutez, on peut le penser dans le sens où, encore une fois, ça ne résout fondamentalement rien quant au postulat de départ. Ces pays, s'ils voulaient vraiment coopérer et contribuer à une solution politique, s'efforceraient de faire la pression sur Riyad, amener Riyad à prendre acte de la situation militaire telle qu'elle existe aujourd'hui et non pas telle qu'elle était imaginée il y a maintenant 8 ans de cela, et peut-être sponsoriser une résolution avec un langage qui prendrait en compte les intérêts légitimes du peuple yéménite et de la légitimité politique de la résistance yéménite comme étant l'interlocuteur incontournable, avec en clause subsidiaire la levée du blocus sur tout le pays, l'acheminement de l'aide humanitaire et l'évacuation de toutes les forces étrangères. C'est dans un contexte effectivement de sponsorisation d'une résolution au Conseil de sécurité dans cette configuration que l'on pourrait penser que les États-Unis et la France, pour ne citer qu'eux, mais le Royaume-Uni pourrait aussi joindre son soutien dans cette démarche, pourraient se révéler utiles. Mais faire des déclarations de forme, si je puis dire, qui quelque part entérinent et semblent donner un blanc-seing à la conduite des négociations par Riyad au travers d'une délégation qui légalement n'a aucune légitimité ni juridique ni politique, semble être quelque part un jeu de dupes. C'est tout ce qu'on peut penser sur le terrain, enfin dans l'état actuel des choses, jusqu'à preuve du contraire.
Une toute dernière question, Maître De Velay, concernant alors ce cessez-le-feu, cette trêve. Est-ce qu'elle pourrait tenir eu égard aux récents développements?
Elle pourrait servir de plateforme pour, effectivement, si les discussions sont empreintes de bonne foi et de réalisme, mener effectivement à un accord plus ou moins tacite qui porterait sur effectivement une initiative dans le sens d'une résolution onusienne qui puisse être mise en place comme cadre juridique au niveau international et ce le plus vite possible afin que les vraies négociations puissent commencer.
Et concernant en fait, l'influence de l'Arabie Saoudite, justement, parce que il paraît que si alors les pouvoirs sont transférés à ce conseil présidentiel, quelle sera justement le poids de l'Arabie Saoudite, l'influence de l'Arabie Saoudite dans l'avenir du Yémen?
Ben malheureusement, c'est demandé presque à une partie qui s'est rendue coupable d'une infraction de, si je puis dire, prendre acte d'une situation pour laquelle elle serait quelque part absolument étrangère à toute intervention, toute inférence, et demander à cette partie de fournir une solution sans avoir l'air de prendre la responsabilité des actions qu'elle a elle-même commises. Donc quelque part, ça n'a absolument aucun sens, c'est absurde. Et on peut penser que malheureusement, dans la configuration actuelle, à part peut-être essayer de cosmétiquement parlant se donner le beau rôle pour ensuite dénoncer la résistance dans le sens où elle ne serait pas disposée à s'asseoir et à être raisonnable et à enclencher le processus de paix qui permettrait de mettre un terme aux souffrances du peuple yéménite, je ne vois pas trop quel pourrait être long terme dans la configuration actuelle, encore une fois, l'issue d'avancées politiques qui soient de nature à mettre un terme à ce conflit.
Maître Arnaud de Velay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Maître André Chamy, lui aussi juriste international et sociologue depuis Alsace. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.
Une vie, une œuvre. Une œuvre.
Samad Behrangi, l'écrivain et le combattant, dont le chef-d'œuvre est sa vie. Samad Behrangi, né le 24 juin 1939, est mort le 31 août 1967, était un enseignant, critique social, folkloriste, traducteur et nouvelliste iranien d'ascendance azérie. Il est connu pour son livre de littérature enfantine, Le Petit Poisson Noir. Samad Behrangi naît à Tabriz, en Azerbaïdjan, une province située au nord-ouest de l'Iran, dans une famille azérie de la classe populaire. Il finit l'école élémentaire et 3 années d'école secondaire, puis s'inscrit dans une école de formation d'enseignants, dont il sort en 1957. Après avoir fini l'école normale, il fut instituteur à l'âge de 18 ans dans différents villages d'Azerbaïdjan. Pendant 11 ans, il parcourut de nombreux villages, emportant toujours avec lui sa valise pleine de livres, des livres auxquels il consacrait entièrement son budget limité et qu'il faisait circuler parmi les enfants. Connaissant fort bien la vie des enfants villageois, leurs désirs, leurs douleurs et leurs humiliations, Samad écrivit finalement lui-même des contes qui leur parlaient de cette vie, tout en leur donnant des directives. Car il voulait que l'enfant connaisse la société sous son véritable jour, dans ses aspects tragiques et douloureux, afin de pouvoir mieux y lutter. Behrangi était un professeur passionné, un critique social, un écrivain créatif et surtout un penseur qui s'emparait de ce qui était à sa portée, dont une monarchie décadente qui épousa la modernisation mais qui fit peu pour soulager les maux des classes défavorisées de l'Iran. Ce mécontentement grandissant s'est répandu parmi les classes éduquées de la société et toucha ces jeunes Iraniens comme Samad Behrangi qui souhaitaient un changement radical. En plus de livres d'histoire pour enfants, il écrit de nombreux essais pédagogiques et collecte et publie plusieurs échantillons d'orature azérie. Ses études du folklore azéri sont généralement réalisées avec l'aide de son collègue Behrouz Dehkani. Ce dernier participe à la publication de quelques-uns des travaux de Behrangi après sa mort prématurée. Samad a également réalisé quelques traductions du persan vers l'azéri de poèmes d'Ahmad Chamblou, Forour Farrokhzad et Mehdi Ahavan Sales. La plupart de ses œuvres appartiennent au domaine de la littérature rustique et folklorique. Dans toutes ses histoires et ses articles, il s'adresse au peuple, aux gens ordinaires et aux enfants en ayant recours au langage familier des gens de rue et de village. Il exerça une influence considérable sur plusieurs écrivains d'histoire folklorique. Ses œuvres opposent le pauvre et le riche, la ville et le village, le cultivé et l'inculte, et d'ailleurs, en les abordant d'un regard plus neuf que celui de ses contemporains. On le considère plutôt comme un écrivain pour enfants et adolescents. Selon lui, la littérature enfantine doit viser deux points essentiels. Elle doit d'abord être un pont entre le monde coloré et onirique des enfants et le monde noir, plein de réalités douloureuses et tristes de la société des adultes. Deuxièmement, elle doit fournir aux enfants un moyen exact de percevoir le monde et leur permettre d'évaluer à leur échelle des problèmes moraux et sociaux. Behrangi préférait écrire en azéri. Il a écrit des essais critiques sur le système d'éducation iranien, des contes populaires, des nouvelles et a traduit en azéri les travaux de poètes et écrivains iraniens. Il a aussi tenté de collecter oralement et de mettre par écrit une série de contes populaires azéri et des histoires pour enfants, mais on lui refusa les droits de publication dans sa langue natale. Il rassembla des légendes d'Azerbaïdjan et les publia en deux volumes. Il les avait d'abord écrites en azéri pour les traduire ensuite en persan. Il écrivit également de nombreux essais pédagogiques et publia un recueil d'articles sur la psychologie de la pédagogie iranienne. Il fut constamment animé par le désir d'apporter des changements au système éducatif du pays. Il écrivit également des histoires telles que « Le petit marchand de betteraves »,« L'écorce de l'orange amère », Ouldouz et les corbeaux, Une pêche et mille pêches, Le petit poisson noir, etc. Le petit poisson noir, son histoire la plus connue, compte parmi les meilleures et lui a même valu de remporter quelques prix internationaux. Elle présente notamment, de façon allégorique, les efforts des adolescents pour s'engager dans le chemin de la connaissance. Un des livres les plus connus de Samad Behrangi est Kachale Kaftarbaz, ou Le chauve gardien des pigeons. Le conte tourne autour de Kachal, chauve, et de sa lutte contre un roi tyrannique. Le protagoniste, qui est chauve, pauvre et modeste, ne poursuit pas la richesse ni le pouvoir. Kachal prend position contre la violente oppression du roi en conduisant sa simple et honnête vie. Avec une amusante espièglerie, il utilise aussi ses pigeons pour faire tomber des crottes sur la tête des soldats du roi. Un drôle et subtil hommage à la légitimité des luttes armées contre la dictature. Cette histoire, comme beaucoup de contes de Behrangi, allie l'humour à une analyse sombre de la société et à une analyse subtile de l'inégalité, de l'usage de la terre et des droits des femmes. Son écriture est aussi unique parce qu'elle adopte un style classique tout en évitant l'évasion par le merveilleux propre à ce genre et en retenant plutôt la justice sociale comme morale de l'histoire, même aux dépens du bonheur personnel et de la société. Le style d'écriture de Behrangi rappelle celui de Miguel de Cervantes. dans sa capacité à mêler l'absurde et des éléments fantastiques à une critique de la société et de l'immobilisme ne disant pas son nom. Comme Cervantes, Berlanghi utilise l'humour et l'ironie dans ses histoires qui semblent inoffensifs pour présenter une critique acérée de la vie sous le Shah d'Iran. Avec les mots, Samad espérait armer ceux qui étaient les plus affectés par la pauvreté et l'inégalité en Iran. Ces idées furent toujours rejetées par le gouvernement de Shah, qui savait que Samad, révolutionnaire évoquant dans ses œuvres la puissance révolutionnaire des masses laborieuses, était aussi révolutionnaire dans sa méthode d'enseignement, une méthode adaptée aux conditions réelles de la société iranienne. Samad Behrangi se démarque non seulement par ses idées politiques et son imagination, mais aussi par sa démarche et son style d'écriture, accessible aux masses. Ses idées et sa prose étaient présentées de façon à refléter le discours commun. Ses histoires parlaient de la dure réalité de la vie dans un monde inégalitaire. Elles étaient faites pour donner une orientation et une prise de conscience aux jeunes enfants, et une direction pour surmonter les maux auxquels ils étaient confrontés. Cet écrivain engagé mourut très tôt, à l'âge de 30 ans, dans des conditions très douteuses. On retrouva son corps noyé dans la rivière d'Arras.
Thank you.